J'ai pas touché. Ça marche ? Alors, la dernière fois, nous avions lu et essayé d'interpréter les deux premiers aphorismes de Par delà bien et mal. Je reviens d'un mot sur ces passages avant de laisser éventuellement place à des questions. Nous trouvons dans ces deux premiers paragraphes la critique très forte et constante, peut-on dire, dans le nietzschéisme, du dualisme métaphysique, et donc en particulier ici, de la distinction, voire de l'opposition tranchée, entre bien et mal, faux et vrai. La grande critique consiste à accuser les dualistes, c'est-à-dire ceux qui vont chercher, au-delà du sensible, un monde vrai, d'être incapables de porter ce que la réalité sensible, c'est-à-dire le monde phénoménal, le monde dans lequel nous vivons, a d'instable, de tourmenté, d'inconstant, et donc par conséquent aussi de trompeur. Dans l'incapacité de porter, de supporter ce monde de l'impermanence, eh bien on va chercher à se donner un monde vrai. Un monde vrai qui ne soit que vrai, un monde bien qui ne soit que bien, un monde juste qui ne soit que juste, c'est-à-dire à se donner ce que Nietzsche appelle souvent un idéal, avec un I majuscule, qui soit une récusation de ce monde sensible transitoire, et au contraire, l'affirmation d'un monde idéal qui, lui, est consistant, est solide, est vrai, et certain. Alors, ce monde idéal, Nietzsche le désigne de multiples façons, ça peut être, dans le Zarathoustra en particulier, les arrière-mondes, mais plus généralement, c'est le monde de l'idéal, c'est le monde du vrai qui n'est que vrai, du bien qui n'est que bien. Alors, les deux textes que nous avions vus mettent en cause cette distinction tranchée au profit de l'idée d'un entremêlement permanent, qui ne soit pas une confusion, bien entendu, mais une non-séparabilité, si je puis dire, de ces oppositions. Alors, il faut bien noter que Nietzsche ne récuse pas comme tel ses oppositions. Et c'est souvent l'accusation qu'on fait ou les affirmations qu'on lui fait porter, à savoir qu'il récuserait toute idée de bien et de mal, voire la distinction même. Ce qu'il refuse, c'est précisément la distinction tranchée entre un bien qui ne serait que bien et un mal qui ne serait que mal. Mais que la distinction lui importe, c'est tout à fait vrai. Simplement, ce qu'il se demande, c'est pourquoi les volontés cherchent, ou les métaphysiciens ont cherché, à s'émanciper du monde sensible, c'est-à-dire d'un monde jugé faux, au profit d'une vérité qui ne soit que vraie. D'où la question que nous avons entrevue et que tout le livre ne va cesser de poursuivre et de creuser. Quelle est la volonté qui veut ? Pourquoi veut-on se donner un monde de certitude, de tranquillité, de satisfaction et de perfection ? Pourquoi veut-on par conséquent aussi la distinction entre des réalités qui seraient transitoires et trompeuses et des réalités qui ne seraient que vraies ? Donc la vraie question va porter sur la volonté qui veut, moins sur l'idéal, par exemple la croyance en Dieu, que sur la volonté de croire à un royaume des fins, à un royaume de Dieu, à une société sans classe et sans état, enfin toute forme d'idéal qui nous émanciperait du monde sensible. Et se double aussi la question de savoir pourquoi, au fond, fuyons-nous, la volonté n'accepte pas le non-vrai. Pourquoi est-ce que le non-vrai, l'illusoire, le mensonger, ne ferait pas partie aussi du régime de la vérité ? Est-ce que nous n'avons pas besoin aussi bien du vrai, mais pas du vrai qui ne soit que vrai, que du mensonge, de l'apparence, de l'illusoire? Et nous avions vu finalement que, en effet, même la science ne va pas, aux yeux de Nietzsche, il faudrait évidemment analyser d'autres textes, ne va pas de vérité en vérité vers une sorte de transparence de plus en plus grande à l'égard du réel, mais qu'elle va plutôt d'illusion en illusion, d'approximation en approximation. J'avais signalé le nom de Popper, l'idée de falsification. Bon, on peut laisser ce point de côté, nous allons y revenir dans les paragraphes suivants, mais le fait est que pour Nietzsche, nous ne pouvons pas aller au vrai sans traverser le mensonge et même sans prendre en compte le mensonge ou l'illusion, mot qu'il tient un peu pour équivalent. Alors ce que nous touchons aussi, ce que nous avons touché, mais rapidement, c'est que le point important va être d'analyser cette volonté qui veut l'idéal. Et nous avons là, à la racine, une distinction tout à fait fondamentale entre la volonté faible, que Nietzsche va appeler aussi la volonté serve, la volonté esclave, la volonté peuple, la volonté plébéienne, enfin autant de noms qui signifient finalement la même chose, la volonté faible qui est celle qui n'accepte pas, qui ne peut pas porter la fluidité du réel et qui donc se donne un monde d'idéal. Donc opposition entre cette volonté faible et la volonté forte ou noble ou distinguée ou aristocratique, enfin autant de noms que nous allons retrouver, qui, elle, serait capable de supporter, de porter, de vivre dans la non-permanence des choses, sans chercher un autre monde qui serait plus vrai que cette impermanence. Bon, nous avons croisé ce thème, nous n'avons pas encore analysé, mais nous allons nous ouvrir avec le paragraphe 19 à cette réflexion sur la volonté. Et je crois qu'il est important de remarquer que la philosophie nietzschéenne s'inscrit dans cette insistance sur la volonté, et je reviendrai plus tard sur cette distinction importante entre les philosophies qui mettent en avant, qui sont plutôt l'entendement, la raison, etc., la connaissance, et celles qui, comme Nietzsche, mettent en avant l'importance de la volonté qui veut, qui cherche à connaître. Mais ce qui est important dans la connaissance, c'est de distinguer ce que la volonté veut en elle. Voilà, je crois avoir repris quelques points de ces textes subtils et qui ont peut-être, à la relecture, posé quelques questions à vos esprits éclairés. Oui. Pourquoi cette insistance sur la vie? On pourrait dire d'abord, peut-être, je ne sais pas bien, je constate que c'est le point sur lequel il insiste, on pourrait dire d'abord de manière biographique que c'est quand même un homme qui, à travers sa maladie, a rencontré la mort. Et sa descente aux enfers, comme il dit dans Humain trop humain. C'est un homme aussi qui a résisté à la maladie et à la mort. Donc, qui a voulu ce qu'il appelle aussi la grande santé. Qui a voulu vivre. Et donc, pour lui, il n'y a rien de plus important, finalement, que cette volonté de vivre. Mais nous allons voir qu'elle n'a pas le même sens que son maître Schopenhauer. Il n'y a rien de plus important que la vie. Mais cette vie, elle n'est pas une vie sans la mort, elle n'est pas une vie sans le négatif, elle n'est pas sans exploitation, même comme il dit quelquefois, la vie est cruelle. Mais précisément, la volonté forte est celle qui est capable d'accepter la cruauté de la vie. Ce qu'elle a d'insatisfaisant, de cruel et de porteur de maladies et de morts. Je crois que c'est un point essentiel. Et puis, comme nous allons voir, il s'inscrit dans une tradition. Et cette tradition, elle est celle de Schopenhauer, pour lequel la volonté de vivre est la clé même du monde, des choses. La volonté de vivre est l'essence même du monde. Donc c'est dans cette ligne qu'il s'inscrit, hein, donc il prend le relais, je crois. C'est une réponse... parce que tout philosophe, je dirais, ne part pas de zéro. Hein, il est héritier d'une tradition dans laquelle il a appris à penser, et où il la critique, mais il en reste quand même solidaire, où il la reprend à son compte, mais il la transforme. Donc si nous parlions d'un autre philosophe, nous trouverions les mêmes principes posés, parce qu'il les a reçus, qu'il va discuter, mais il s'inscrit dans une certaine ligne qu'il conduit à penser de telle ou telle façon. Il n'y a pas de pensée pure qui ne surgisse de rien, ça n'existe pas. Et alors si nous le disions, nous serions encore moins dans la ligne de Nietzsche. Bien sûr, chacun pense en fonction de sa vie, de son corps, de des traumatismes qu'il a reçus de l'histoire, etc. Freud-Blas, c'est une pensée incarnée. Mais ça n'a pas beaucoup de sens de dire incarné. Elle a un corps, et ce corps, il a une histoire, et il reçoit un héritage intellectuel. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur ces deux points de paragraphe? Bon, alors nous allons regarder, si vous voulez bien, le paragraphe 19 et le paragraphe 21, ces deux aphorismes qui sont d'ailleurs fort longs, mais qui, je crois, nous donnent des indications fortes sur ce qu'il en est de la volonté chez Nietzsche. Alors, je lis ce premier paragraphe, ce paragraphe 19. Les philosophes ont coutume de parler de la volonté comme si c'était la chose la mieux connue au monde. Schopenhauer a même donné à comprendre que nous ne connaissons au fond que la volonté, que nous la connaissons de part en part, sans y ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que dans ce cas aussi, Schopenhauer ne fait que suivre les habitudes des philosophes qu'il a repris et exagéré un préjugé populaire. Voilà, je crois qu'on a là une première entrée, enfin une ouverture. Avant tout, il me semble que la volonté est quelque chose de complexe. Donc à partir de ce moment-là, on rentre dans l'idée opposée à celle qui est supposée être celle de Schopenhauer, à savoir que la volonté n'est pas une, mais qu'elle est complexe. Donc on pourrait dire que ce paragraphe nous indique qu'il s'agit d'une critique de tous ceux qui croient savoir de quoi ils retournent quand on parle de volonté. Qui croient que la volonté, puisqu'ils ont le mot, ils ont la réalité. Et donc ce paragraphe ouvre un procès, une dénonciation d'une illusion qui n'est pas seulement un signe de manque de vigilance intellectuelle, mais qui touche aussi, nous insisterons peu là-dessus, mais c'est tout de même évidemment important, qui concerne aussi une analyse fondamentale du langage. Les philosophes qui croient savoir ce qu'il en est à travers le mot de volonté se masquent la complexité des choses et croient qu'en détenant le mot, ils détiennent la réalité. Ça, c'est un reproche très constamment fait. Nous l'avons déjà rencontré ceci, au langage qui simplifie, qui chosifie et qui s'illusionne en pensant qu'à travers les mots, il détient la chose même. Donc il y a une sorte de mise en cause du langage, non pas en lui-même, mais nous avons déjà vu que Nietzsche a de la peine à se dépatouiller avec l'idée de langage, les pensées sont plus subtiles que les mots, mais on ne peut pas exprimer les pensées sans les mots, c'est le dernier paragraphe de Part de la bien et le mal. Mais voilà, il faut reconnaître aussi la limite de tout langage. La grande critique, c'est que cette prise au sérieux, c'est plutôt cette position selon laquelle le langage nous dit les choses, risque de nous enfermer dans un logocentrisme, c'est-à-dire d'enfermer l'homme dans le logos lui-même qui est pris pour le réel. Autrement dit, la grande critique derrière tout ça, c'est que ces philosophes, en prenant le langage comme, je dirais, monnaie courante, versent dans un anthropocentrisme de la langue, qui n'est après tout qu'un moyen de désigner les choses, une construction humaine, un instrument, mais rien de plus, mais instrument qui risque de nous donner l'illusion de se suffire à lui-même. C'est-à-dire que le langage est un moyen de dire, moyen imparfait, moyen limité, moyen indispensable, mais qui risque toujours de devenir une fin. C'est le logocentrisme du langage, et en particulier du langage scientifique. Nous pourrions regarder, mais je vous laisse le soin de le faire vous-même, le paragraphe l'aphorisme 14, qui est une critique assez virulente de la physique moderne. Le scientifique croyant qu'à travers des mots, on pourrait dire relativisme, etc., quantisme, il désigne la réalité même. Et de ce point de vue-là, la critique de Nietzsche est évidemment très, très sévère contre cette illusion de croire qu'on détient la réalité, qu'on la décrit suffisamment quand on détient les mots eux-mêmes. Bon, vous pouvez voir le début de ce paragraphe 14. L'idée que la physique n'est elle aussi qu'une interprétation du monde, donc on pourrait dire une façon de parler, dont il ne faut pas être dupe, une adaptation du monde à notre propre entendement, si j'ose dire, et non pas une explication du monde, commence peut-être à pointe dans 5 ou 6 cerveaux. Mais dans la mesure où la physique se fie au témoignage des sens, elle passe, et passera longtemps encore, pour quelque chose de mieux, c'est-à-dire pour une explication. Or, elle n'est pas une explication, elle est une interprétation. Et cette interprétation reste toujours à distance, bien entendu, de ce qu'elle interprète. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne nous donne pas à saisir quelque chose du réel, mais à travers la médiation du langage qui peut fausser ce qu'il en est. Alors, comme celui qui est visé particulièrement ici est Schopenhauer, je voudrais faire une petite digression pour présenter en quelques mots Schopenhauer, parce qu'il a, comme je l'avais dit le premier jour, il a beaucoup marqué la position de Nietzsche, il a même été et il reste de bout en bout le grand opposant, la grande pensée avec laquelle Nietzsche ne cesse de se débattre, dirons-nous jusqu'au bout. Et cette pensée, comme vous allez voir, est une pensée particulièrement noire et particulièrement nihiliste. Et donc, quand Nietzsche parle de nihilisme, c'est toujours un peu Schopenhauer qu'il a dans le collimateur, si je puis dire, qu'il vise. Alors, quelques mots sur cette philosophie qui permet aussi, en passant, de sortir Nietzsche de l'illusion que ce cours pourrait donner, qu'il est un météore sans racines, comme j'ai dit tout à l'heure en réponse à la question. Bien entendu, Nietzsche ne tombe pas du ciel, il a des enracinements, et en particulier l'enracinement de Schopenhauer. Je reviendrai là-dessus. Alors, quelle est la vision de Schopenhauer? Alors, Schopenhauer, d'abord quelques dates, qui est né à Danzig, Gdansk maintenant, est né en 1788 et mort en 1860. Donc, Nietzsche n'a pas pu le connaître personnellement, mais il a lu, lorsqu'il était étudiant à Bonn, son grand livre dont je vais parler, Le monde comme volonté, comme représentation. La vie de Schopenhauer est simple, c'est un universitaire qui a toujours été professeur d'abord à Berlin, puis ensuite à Francfort sur le Main. À Berlin, il était collègue, mais collègue plutôt en opposition, avec Hegel. Et par conséquent, alors lui connaissait Hegel. Toujours quelqu'un posait la question de savoir si Nietzsche le connaissait Hegel. Schopenhauer le connaissait, c'était son collègue de travail et, on peut dire, son adversaire. Son adversaire pour ce type de pensée, nous en verrons un mot tout à l'heure, mais aussi parce que les cours de Hegel avaient grand succès, les amphithéâtres étaient combles, et ce pauvre Schopenhauer, vous allez d'ailleurs comprendre un peu pourquoi, n'attirait guère le public. Et donc, il n'était pas très heureux de cette concurrence, si bien qu'il a fini par quitter Berlin, peut-être heureusement, parce qu'en 31, je crois que c'est la peste ou le choléra, je ne sais jamais, s'est déclenché à Berlin, et le malheureux Hegel en est mort. Bon, donc, l'ouvrage principal de Schopenhauer, c'est ce gros volume qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation », qui est traduit en français dans cette édition et dans d'autres aussi. C'est sur lui que je vais m'arrêter, bien qu'il ait fait d'autres textes intéressants. C'est un homme qui a écrit très, très abondamment. Alors, pour le situer, on peut d'ailleurs s'appuyer sur ce que lui-même a dit. C'est beaucoup expliqué, c'est un homme très, très, un peu bavard. Il s'est longtemps expliqué sur ses propres sources. Et je lis un petit passage de la préface de la première édition du Monde comme volonté et représentation, donc qui est paru en 1818. Il dit ceci. « La philosophie de Kant est la seule avec laquelle il soit strictement nécessaire d'être familier pour entendre ce que j'ai exposé. » Donc, filiation kantienne revendiquée. Donc, dans tout ceci, dans Schopenhauer, et je dirais comme dans Nietzsche, Kant n'est jamais loin. C'est une référence tout à fait décisive. Si cependant le lecteur se trouvait en outre avoir fréquenté l'école du divin Platon, il serait d'autant mieux en état de recevoir mes idées et de s'en laisser pénétrer. Donc, Kant, Platon, nous trouvons aussi Nietzsche. Maintenant, supposez qu'il ait reçu, ce lecteur, le bienfait de la connaissance des Védas, de ce livre dont l'accès nous a été révélé par les Upanishads, et c'est là à mes yeux le plus réel avantage que ce siècle, encore jeune, 1818, ait sur le précédent, car selon moi l'influence de la littérature sanscrite sur notre temps ne sera pas moins profonde que ne le fut au XVe siècle la renaissance des lettres grecques, donc les Védas, bouddhisme, hindouisme, décisif. Supposez un tel lecteur qui ait reçu les leçons de l'antique sagesse hindoue et qui se les soit assimilé, alors il sera au plus haut point préparé à entendre ce que j'ai à lui enseigner. Ma doctrine ne lui semblera point, comme à d'autres, une étrangère, encore moins une ennemie, car je pourrais, s'il y avait à cela bien de l'orgueil, dire que parmi les affirmations isolées que nous présentent les Upanishads, il n'en est pas une qui ne résulte comme une conséquence aisée à tirer de la pensée que je vais exposer. Bien que celle-ci, en revanche, ne se trouve pas encore dans les Upanishads. Donc, dans le texte de Penhoer, nous retrouvons toutes les pensées des Upanishads, c'est quand même une source revendiquée, bien que, évidemment, les Upanishads n'aient pas encore découvert Schopenhauer, malheureusement. Donc, nous avons déjà un premier tableau. Schopenhauer, si je puis dire de manière simpliste, c'est Kant plus les Upanishads. Alors, ça peut paraître, évidemment, extrêmement curieux. Mais on peut s'en expliquer simplement. Je vais dire deux choses et puis tirer quelques conclusions. Je vais surtout lire des textes de Schopenhauer qui sont très caractéristiques. Alors, je crois qu'il faut prendre au sérieux le titre lui-même. Le monde comme volonté, comme représentation. La philosophie kantienne, vous le savez, se caractérise par l'insistance sur les limites de la raison pure, en tant qu'elle est une raison qui nous situe du côté de la connaissance des choses sensibles, c'est-à-dire du côté de la représentation. Donc, pour Kant, disons les choses encore en simplifiant, il y a d'un côté la représentation qui nous donne à connaître les phénomènes sensibles que nous pouvons connaître grâce aux catégories de l'entendement, et puis il y a par ailleurs la volonté morale, c'est-à-dire la raison pratique. La raison pratique ne répond pas à des impératifs du sensible. Au contraire, elle doit même s'opposer au sensible. Le devoir nous appelle quelquefois, et même souvent, selon Kant, à réfréner nos penchants sensibles. Donc, alors que la raison pure doit accueillir le sensible pour le connaître, la raison pratique doit au contraire s'opposer aux passions pour n'obéir qu'au devoir. Telle est la volonté. Bon, eh bien, c'est cela que Schopenhauer reprend, mais vous voyez qu'il met d'abord la volonté. Pour lui, la volonté et la représentation, c'est les deux clés de compréhension du monde. Le monde est d'abord représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par notre finitude même, nous sommes liés au monde sensible. Et nous ne pouvons pas faire autrement que d'être liés au monde sensible. C'est-à-dire que nous avons des besoins qui nous attachent à ce monde-ci. Nous avons faim, nous avons soif, nous avons un certain nombre de passions et de désirs qui nous attachent au bien de ce monde. Nous cherchons la réputation, nous cherchons la richesse, toutes sortes de biens qui nous attachent au monde sensible. Mais en particulier, l'attache au monde sensible vient, et c'est un point tout à fait curieux et très fort, de la sexualité. La sexualité, aux yeux de Schopenhauer, pourrait-on dire, est la passion des passions. Elle est ce qui, tout particulièrement, nous attache au monde sensible. Elle est la passion des passions. Je vais citer des textes extrêmement, extrêmement frappants, extrêmement même troublants. Toute passion, à la page 1287 dans ce qu'il appelle la métaphysique de l'amour, qui a été publiée dans un petit volume de 10-18, si vous vouliez dire ça, c'est une lecture qui vaut mieux ne pas lire pour éviter le sommeil, parce que c'est une lecture assez, comme vous allez voir. Toute passion, quelque apparence éthérée qu'elle se donne, a sa racine dans l'instinct sexuel. Ouais, c'est une idée que Freud va reprendre, parce qu'il a, Freud est aussi un disciple de Schopenhauer. Toute passion a une racine dans l'instinct sexuel. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la faim, la soif, la réputation, etc., si on regardait bien, aux yeux de Schopenhauer, tout ceci nous renvoie à l'instinct sexuel. Ou même n'est pas autre chose qu'un instinct sexuel plus nettement déterminé, spécialisé, ou au sens exact du mot, individualisé. Considérons maintenant, sans perdre de vue ce principe, le rôle important que joue l'amour à tous ses degrés et à toutes ses nuances, non seulement au théâtre et dans les romans, mais aussi dans le monde réel. Bon, et je passe sur l'énumération, il montre que la plupart de la littérature est marquée par ces débats sur l'amour sexuel, sur l'amour entre l'homme et la femme, sur la vie politique, sur la vie sociale. Il ne craint pas d'intervenir, dit-il, en perturbateur avec tout son bagage dans les délibérations des hommes d'État et les recherches des savants. Il s'entend à glisser ses billets doux et ses boucles de cheveux dans le portefeuille d'un ministre ou dans un manuscrit philosophique. Donc, rien n'échappe finalement à l'emprise de cet instinct sexuel. Cet instinct sexuel, il est le plus fort de tous parce que c'est là que l'homme et la femme pensent atteindre la jouissance maximale. Les biens particuliers, la richesse, la réputation, ne donnent pas ce sentiment de puissance et de jouissance que donne la relation sexuelle. Magnifique. Seulement, il y a un retournement. C'est que c'est ça qui nous attache au monde. C'est ça qui fait que l'homme et la femme se poursuivent incessamment dans la littérature, dans la vie réelle, dans les passions de toutes sortes. C'est ça qui crée les drames. Mais en même temps, cet instinct sexuel est une immense illusion. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est transitoire, qu'après l'acte sexuel, les deux amants se découvrent abattus et comme cernés par la mort. Et pour Schopenhauer, il y a un lien intrinsèque entre sexualité et mort, surtout parce que l'union sexuelle donne naissance à une autre génération. Et donner naissance à une autre génération, c'est signer son arrêt de mort. C'est laisser entrer sur la scène du monde ceux qui vont vous éliminer. Et donc, ce que les amants ne voient pas, c'est qu'en réalité, ils sont le jeu, le jouet de l'espèce humaine. En eux, c'est moins eux qui veulent que l'espèce humaine qui veut se reproduire. Donc, en faisant l'amour, ils ne savent pas ce qu'ils font. En faisant l'amour, c'est l'espèce humaine qui se joue d'eux, qui utilise leur passion et leur attrait pour se perpétuer. Je lis encore un passage. L'esprit de vérité découvre peu à peu la réponse à l'observateur attentif. Non, ce n'est pas d'une bagatelle qu'il s'agit ici. Au contraire, l'importance de la chose en question est en raison directe de la gravité et de l'ardeur des efforts qu'on y consacre. Le but dernier de toute intrigue d'amour, qu'elle se joue en brodequin ou en cothurne, est en réalité supérieur à tous les autres buts de la vie humaine et mérite bien le sérieux profond avec lequel on le poursuit. Ce qui se décide là, c'est bel et bien la composition de la génération future. Ces intrigues d'amour, si frivoles, servent à déterminer l'existence et la nature des personnes du drame destinées à paraître sur la scène quand nous l'aurons quitté. Dans cette opération, il ne s'agit pas, comme partout ailleurs, du bonheur et du malheur individuel, mais de l'existence et de la nature spéciale de la race humaine dans les siècles à venir. Et par suite, la volonté de l'individu s'y exerce à sa plus haute puissance en tant que volonté de l'espèce. L'instinct sexuel en général, tel qu'il se présente dans la conscience de chacun, sans se porter sur un individu déterminé de l'autre sexe, n'est en soi et en dehors de toute manifestation extérieure que la volonté de vivre. Voilà, la volonté de vivre. Les amants veulent la jouissance. Cette jouissance les lie au monde sensible. Mais en réalité, ils sont les jouets, les marionnettes, c'est le mot qu'utilise Schopenhauer, de la volonté de vivre. Alors, il faut bien voir que cet attachement au sensible est évidemment, nous met dans le monde de la représentation et nous lie à ce monde de la représentation. C'est dans cette jouissance que l'individu prend conscience de lui-même, ce qu'il appelle le principium individuationis, le principe d'individuation. L'individu croit trouver son centre de gravité, doit se reconnaître comme sujet dans cette jouissance même. Mais en réalité, il n'est lui-même qu'un jouet. Je vais encore lire un texte ou l'autre qui est tout à fait frappant. et significatif. Voilà. Quand l'individu qui réfléchit, donc dans la ligne de Schopenhauer, s'aperçoit du piège, il va découvrir que finalement, lui-même n'étant qu'une marionnette, il est victime de la volonté de vivre et que la vie finalement n'a pas de sens. Vraiment, on a peine à croire à quel point est insignifiante, vide de sens aux yeux du spectateur étranger, à quel point stupide et irréfléchie de la part de l'acteur lui-même, l'existence que coule la plupart des hommes. Une attente sotte, des souffrances ineptes, une marche titubante à travers les quatre âges de la vie, jusqu'à ce terme, la mort, en compagnie d'une procession d'idées triviales. Voilà les hommes, des horloges, une fois montés sur la marche, sans savoir pourquoi. À chaque engendrement, à chaque naissance, c'est l'horloge de la vie humaine qui se remonte pour reprendre sa petite ritournelle déjà répétée une infinité de fois, phrase par phrase, mesure sur mesure, avec des variations insignifiantes. Un individu, un visage humain, une vie humaine, cela n'est qu'un rêve très court de l'esprit infini qui anime la nature, de cette opiniâtre volonté de vivre, une image fugitive de plus qu'en jouant l'esquisse sur sa toile sans fin, l'espace et le temps, pour l'y laisser durant un moment, moment qui, au regard de ces deux immensités, est un zéro, puis l'effacer et faire ainsi place à d'autres. La vie de chacun de nous à l'embrasser dans son ensemble d'un coup d'œil, à n'en considérer que les traits marquants, est une véritable tragédie. Mais quand il faut pas à pas l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. La comédie des amants, qui croient à l'amour éternel, qui croient à l'union, etc. Comédie. Si vous regardez de plus près, cette comédie est une tragédie. Parce que dans la jouissance suprême, ils signent leur mort, puisqu'ils adhèrent à la volonté de vivre. Chaque jour apporte son travail, son souci, etc. On dirait que la fatalité veut, dans notre existence, compléter la torture par la dérision. Elle y met toutes les douleurs de la tragédie, mais pour ne pas nous laisser au moins la dignité du personnage tragique, elle nous réduit dans les détails de la vie au rôle du bouffon. Au rôle du bouffon. Alors, quelles conséquences en tirer? Eh bien, la conséquence en tirer, et nous retrouvons ici non seulement Kant, mais certainement le bouddhisme, c'est qu'il faut se retirer le plus possible de ce monde de la représentation. Il faut adhérer le moins possible aux passions, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une perspective d'ascèse. Bon, c'est tout à fait du bouddhisme. Plus vous cherchez le bien, la richesse, les biens, la fortune, plus vous cherchez la jouissance sexuelle, plus vous vous mettez dans le tourment et la souffrance. Donc si vous voulez éviter la souffrance, ben limitez votre contact avec le monde sensible, sortez du monde, arrachez-vous aux passions. Bon, c'est un geste par conséquent de non-adhésion à la réalité sensible telle qu'elle est. Par conséquent, il faut éviter les tourments, il faut éviter la vanité, il faut éviter les désirs en rentrant le plus possible dans l'ascèse. Rentrer dans l'ascèse pour échapper à la souffrance, pour échapper aux tourments, pour échapper à l'illusion. Mais finalement, celui qui va jusqu'au bout de cette démarche s'aperçoit que, bien entendu, il peut s'extraire de la volonté, peut s'extraire de la représentation. Il peut comprendre qu'il est lui-même le bouffon d'une volonté de vivre, mais que veut cette volonté de vivre? Eh bien, l'affirmation centrale, c'est que la volonté de vivre ne veut rien de particulier, sinon elle-même. La volonté de vivre ne se veut qu'elle-même. Elle veut par conséquent vivre, elle ne veut rien d'autre. Elle est la chose en soi. Elle est la chose en soi. Ce que, évidemment, aux yeux de Schopenhauer, Kant n'a pas vu. La chose en soi, elle est à même le monde de la représentation, parce que la volonté est à même la chose de la représentation, et c'est la représentation avec la souffrance qu'elle engendre qui nous fait découvrir qu'il ne faut pas vouloir la représentation, donc il faut s'en retirer, et qu'il faut simplement vouloir la volonté de vivre. Laquelle volonté de vivre ne veut rien en particulier. Elle ne veut pas votre jouissance, elle ne veut pas votre succès. Elle se veut elle-même. Bon, je lis un petit passage pour illustrer ce point. L'acte isolé d'un individu conscient, qui n'est lui-même qu'un phénomène de la volonté, chose en soi, nécessite un motif. Et nécessite un motif car elle n'aurait pas lieu sans cela. Bon, il faut s'aimer, que la personne avec laquelle on va s'unir vous plaise, il faut une raison, monde de la représentation. Mais de même que la cause matérielle détermine seulement le temps, le lieu et la matière où se manifestera telle ou telle force physique, de même le motif ne détermine dans l'acte volontaire d'un sujet conscient que le temps, le lieu et les circonstances différentes pour chaque acte. Il ne détermine pas le fait même que cet être veut, soit en général, soit dans un cas particulier. C'est là une manifestation de son caractère intelligible. Celle-ci est la volonté même, la chose en soi. Il n'a pas de cause, étant hors du domaine où règne le principe de raison. Voilà, on retrouve Kant. C'est-à-dire, dans le domaine, voilà, tel homme aime telle femme pour telle raison. Elle a les yeux bleus, elle est belle, elle est attirante. Très bien. Mais s'il regarde au fond, il est victime d'une illusion. Parce qu'en réalité, ce qui aime en lui, c'est la volonté de vivre. C'est la volonté de surmonter les choses. Et cette volonté de vivre n'a pas de but. L'absence de tout but et de toute limite est essentielle à la volonté en soi qui est un effort sans fin. Nous avons touché plus haut à la question en parlant de la force centrifuge. Le fait se manifeste aussi sous la forme la plus simple, au plus bas degré d'objectivité de la volonté, dans la pesanteur, etc. Donc ça travaille tous les niveaux de la réalité sensible, de la réalité de la volonté, de la réalité humaine, etc. Donc, la volonté de vivre est la chose en soi qui, en elle-même, ne veut rien sinon sa propre continuité. C'est un vouloir vivre qui ne veut rien et qui ne veut rien de particulier. Je lis encore un petit passage pour vous donner une idée de cette pensée. Voilà, nous autres, schopenhauerien convaincus, qui sommes encore environnés par le voile de Maya, le voile de Maya, donc c'est cette espèce de voile d'illusion, le monde de la représentation, mais nous sommes conscients que nous sommes dans la représentation, nous sommes conscients, on ne cesse pas d'avoir des désirs, mais on tâche de les réfréner le plus possible et même de les nier. Nous autres, qui sommes encore environnés par le voile de Maya, cependant parfois le sentiment violent de nos souffrances ou la vive représentation des maux d'autrui, nous met devant l'esprit le néant et l'amertume de la vie. Et alors, nous voudrions abdiquer pleinement, pour toujours, brisant l'aiguillon des désirs, fermant tout accès aux douleurs, et épurant et sanctifiant notre être. Mais bientôt, l'illusion des apparences nous enveloppe de nouveau, et de nouveau, ces motifs mettent en mouvement notre volonté, nous ne pouvons nous délivrer. Donc on est pris dans le cercle. L'espérance avec ses appâts, le présent avec ses flatteries, les jouissances avec leurs attraits, le bien-être qui parfois nous échoit personnellement en partage au milieu d'un monde souffrant, soumis au hasard et à l'erreur, toutes ces séductions nous ramènent en arrière et resserrent nos liens. Aussi Jésus dit-il, il est plus facile de faire passer un câble par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu. Car comme je vois tout à l'heure, Schopenhauer pense qu'il donne la version authentique du christianisme. Je vais revenir là-dessus. Je pourrais bien d'autres passages tout à fait impressionnants qui vont toujours dans le même sens. Autrement dit encore, au fond, ce vouloir vivre correspond au néant, au non-sens, à l'absurdité de tout ce qui est. Alors, encore un petit passage. Tout à fait à la fin du livre. Détournons notre regard de notre propre indigence et de l'horizon clos qui nous enferme. Considérons ceux qui se sont élevés au-dessus du monde et chez qui la volonté, parvenue à la plus haute conscience d'elle-même, s'est reconnue dans tout ce qui existe pour se nier elle-même librement. Donc, il pense en particulier ici aux ascètes, aux mystiques, à tous ceux qui ont justement déserté le monde, déserté les passions, pour s'enfermer, pour viser le nirvana ou viser le néant. Alors, maintenant, ils n'attendent plus qu'une chose, ceux-là, c'est de voir la dernière trace de cette volonté s'anéantir avec le corps même qu'elle anime. Alors, au lieu de l'impulsion et de l'évolution sans fin, au lieu du passage éternel du désir à la crainte, de la joie à la douleur, au lieu de l'espérance jamais assouvie, jamais éteinte, qui transforme la vie de l'homme tant que la volonté l'anime en un véritable songe, hein, toujours le voile maya, le songe, l'illusion, et un vocabulaire qu'on a retrouvé chez Nietzsche, nous apercevons cette paix plus précieuse que tous les biens de la raison, cet océan de quiétude, ce repos profond de l'âme, cette sérénité et cette assurance inébranlable dont Raphaël et le Corrège, les deux peintres, ne nous ont montré dans leur figure que le reflet. Donc, voilà, une référence, la peinture de ces deux grands peintres italiens nous montre une voie de retrait à l'égard du sensible et de trouver une sérénité dans le néant. Alors, ils nous ont montré dans leur figure que le reflet. C'est vraiment la bonne nouvelle dévoilée de la manière la plus complète, la plus certaine. Il n'y a plus que la connaissance, la volonté est évanouie. Nous ressentons une profonde et douloureuse mélancolie lorsque nous comparons cet état au nôtre, etc., etc. Je termine la dernière phrase. Nous autres, convaincus de cette... ils viennent parler justement de l'hindouisme et de Brahma. Nous autres, nous allons hardiment jusqu'au bout. Pour ceux que la volonté anime encore, ce qui reste après la suppression totale de la volonté, c'est effectivement le néant. Mais à l'inverse, pour ceux qui ont converti et aboli la volonté, c'est notre monde actuel, ce monde si réel avec tous ses soleils et toutes ses voies lactées, qui est le néant. Donc on pourrait dire que le néant nous cerne de toutes parts. Le néant nous cerne, c'est-à-dire la vacuité, quand nous désirons quoi que ce soit, en particulier dans la sexualité, c'est une illusion majeure, mais si nous nous retirons du monde, ben nous découvrons que le vouloir la vivre ne veut rien, et nous découvrons à nouveau le néant. Et il faut avoir le courage d'affirmer ce néant. Alors, je vais simplement lire, parce que ça résume assez bien, je crois, la pensée de Schopenhauer, une petite parabole qu'il donne dans « Le monde comme représentation » au livre 3, chapitre 28. Je crois que ça illustre bien la représentation du monde telle que Schopenhauer se l'a fait. Un voyageur raconte qu'il a vu à Java, donc en Indonésie, une plaine immense couverte de squelettes, hein, comme Ézéchiel, si bien qu'il crut d'abord se trouver sur un ancien champ de bataille. Mais en regardant de plus près, il vit que c'étaient des squelettes de tortues. Chaque année, elles ont coutume de prendre ce chemin en vue d'aller pondre loin de la mer. Pondre, la naissance. Et elles sont assaillies en route par des chiens sauvages qui les renversent sur le dos, leur ouvrent le ventre et les dévorent vivantes. À leur tour, les chiens sont attaqués par des chasseurs. Et le cycle. Ces horreurs se répètent d'année en année. Toutes ces tortues naissent à cette seule fin d'être dévorées. Quelle faute pèse donc sur elles pour causer ce martyre ? Référence, si on souffre, c'est pour mériter, c'est le sacrifice qui nous permet de nous ouvrir à Dieu. Il y a une référence théologique, n'est-ce pas ? La théologie de la satisfaction, s'il y a du mal et de la souffrance, heureusement, heureuse faute, heureuse péché qui nous vaut un tel sauveur. Mais ces pauvres tortues, quel tort elles ont, quel mal elles ont ? Quelle faute pèse donc sur elles pour causer ce martyre ? Pourquoi ces souffrances ? La réponse, c'est le vouloir vivre. Qu'on s'arrête, qu'on examine toutes les manifestations de cette volonté et l'on comprendra le monde. Mais on n'y entendra rien si l'on commence par échafauder des concepts. Regardez mon voisin Hegel. Hein ? On n'y comprendra rien si l'on commence par échafauder des concepts et qu'on tente de bâtir un système comme un château de cartes. Parce que le système, c'est l'illusion majeure. Voilà, ce qui domine, c'est la mort. Vous voulez la vie, vous vous unissez sexuellement à quelqu'un, magnifique, parfaite illusion, parce que vous engendrez la mort. Alors, je termine ce petit exposé par un dernier texte où... Schopenhauer indique qu'en réalité, il a voulu donner une version authentique du christianisme. Vous avez déjà vu tout à l'heure la bonne nouvelle.
texte.
Oui. J'ai voulu montrer, c'est la conclusion, que la morale issue de l'ensemble de nos études, morale d'ailleurs parfaitement conséquente et cohérente dans toutes ses parties, et je crois qu'on peut reconnaître en effet qu'il y a une logique imparable, a beau être neuve et surprenante dans son expression, qu'elle ne l'est point dans le fond. Loin d'être une nouveauté, elle s'accorde pleinement avec les véritables dogmes chrétiens qui la contiennent en substance et la résument. Et d'ailleurs, Schopenhauer s'explique très longuement à certains passages avec Augustin et avec Luther en particulier sur cette idée effectivement de misère de l'homme et finalement du non-sens de la vie. Alors, je crois que là, on a une ligne tout à fait intéressante, si vous voulez, qui montre à quel point une philosophie de la volonté se développe. Et même ici, et ça rejoint le reproche de Nietzsche tout à l'heure, c'est la volonté qui est la clé de compréhension du monde. La volonté comme vouloir vivre, qui veut toute chose, même les plantes, la matière, mais qui ne veut rien en particulier que sa manifestation, et une manifestation finalement vaine. Voilà, j'ajoute encore que pour Schopenhauer, qui était un homme de grand goût, et ça va se retrouver aussi chez Nietzsche, la musique est l'art par excellence de la vanité. Parce que dans la musique, il n'y a rien de tel qui ne nous séduise, comme la musique qui nous s'empare de nous. Mais finalement, une fois que la sonate ou la cantate est terminée, il ne reste rien. Donc la musique est d'une certaine façon l'art même de l'illusion. On se laisse prendre à la musique, on aime beaucoup Chopin, ou qui vous voudrez. Bon, une fois que c'est fini, si vous avez mal aux dents, vous avez toujours mal aux dents. Et puis ça ne nous empêche pas de mourir. Donc vous voyez, l'insistance est évidemment sur la mort qui est la fin de tout. Donc la volonté de vivre, ce n'est pas une manifestation d'explosion, de joie, de vivre. La volonté de vivre est une immense illusion. Alors, est-ce que c'est du Kant? Est-ce que c'est du christianisme? Est-ce que c'est du bouddhisme? C'est tout de même intéressant de noter que Schopenhauer veut penser cette convergence entre bouddhisme, c'est-à-dire sortir du monde, ne pas se laisser séduire finalement par les sens, nirvana, et puis l'idée kantienne, par certains côtés en effet, la volonté qui veut, elle veut le devoir, mais enfin finalement... une fois qu'on a voulu le devoir, ben on a résisté au sensible, c'est vrai, mais, et puis après. Voilà, alors on comprend tout à fait que le jeune Nietzsche, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, un peu moins, à Bonn, lorsqu'il a lu ses textes, que je ne fais que résumer de manière sommaire, évidemment s'est trouvé lessivé et tout à fait marqué par ce qu'il appelle le nihilisme. Alors, avant de revenir au texte de Nietzsche, peut-être avez-vous quelques questions sur Schopenhauer, c'est une pensée très... que je ne fais qu'évoquer trop rapidement, mais qui, vous voyez, est très radical. C'est difficilement mieux dans le genre du nihilisme et du non-sens. Vous en êtes soufflé, oui. Rien, parce que il y a toujours la structure représentation-volonté. Il y a l'idée que derrière les volontés particulières, les désirs que vous avez, il y a une idée qui conduit les choses et qui permet d'expliquer l'ensemble des choses, mais cette idée, c'est le vouloir vivre. Donc on pourrait dire que c'est du Platon, mais complètement vidé, évidemment, de la substance platonicienne. Mais on a un peu cette structure duelle, sauf que le dualisme ici vous conduit à un monisme. Il n'y a plus que le non-sens qui règne. Bien que dans la réalité concrète, on est toujours pris par des passions, mais on sait que ces passions sont vaines. Donc on donnera aussi peu de prise que possible aux passions, parce qu'on sait que de toute façon, c'est la mort qui va l'emporter. Donc c'est une philosophie de la mort. Il y a d'ailleurs un petit livre aussi en 10-18, qui s'appelle, je crois, Métamorphose de la mort. C'est une philosophie de la mort. Alors, oui, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Oui.
Est-ce qu'on ne trouve pas un petit peu le même genre de pensée chez les Pères du désert?
Oui, c'est-à-dire que par certains côtés, il n'a pas totalement tort de dire qu'il s'inscrit dans le christianisme, c'est-à-dire un certain christianisme, si vous voulez, de la vanité du monde, du péché, de la nécessité de s'émanciper de tout ça, et puis de vivre. D'ailleurs, il cite, je n'ai pas pris le texte, mais il cite Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, qui eux aussi ont été des mystiques du nada, le rien. Alors, le rien de Schopenhauer n'est sans doute pas le rien de Jean de la Croix, ça, évidemment, mais Schopenhauer croit retrouver chez les mystiques, en fait, vous avez raison, et il y a une tendance chrétienne à ça, ça c'est sûr, oui. Une tendance, évidemment, forte, mais qui le reprend. Et on peut dire que le luthéranisme, d'un certain point de vue, est dans cette ligne, hein, oui. C'est pour ça que ça m'amuse toujours quand on dit, mais le protestantisme, magnifique, c'est le monde moderne, la démocratie, etc., oui. Mais c'est aussi le néant de l'homme, c'est l'homme pécheur, incapable de volonté. Mais c'est ça. Incapable de volonté sans la grâce. Ah, ben alors comme humanisme. Oui.
On a vu Schopenhauer parler des ascètes bouddhistes. Est-ce que lui prône finalement une manière de vivre particulière, l'extinction des passions, ou est-ce que finalement vouloir se libérer, c'est encore une illusion?
De toute façon, on est dans l'illusion. Mais je dirais, il y a, me semble-t-il, chez lui, des illusions plus ou moins graves. Bah, si tu jouis du monde sans même te rendre compte, alors tu es vraiment une marionnette. Mais si tu en jouis en sachant que tout ça, c'est dégueulasse, fait que ça n'a pas de sens, tu es déjà un peu sorti du voie de Maya. Donc, on a intérêt. Et si tu vis ça, tu vas limiter ton contact avec le monde. Donc, tu vas vivre une vie... Schopenhauer ne fait pas une vie d'ascète, hein, faut pas non plus... Il vivait sobrement, mais tu vivras sans te livrer aux passions qui t'enchaînent au monde de la représentation. Alors, est-ce qu'il le fait dans sa vie? Moi, je ne connais pas assez. Je crois que c'était un brave homme. Enfin, il ne vivait pas dans une cabane au fond d'un jardin. Hein. C'était un bon universitaire qui devait empocher son salaire à la fin du mois. Bon, je suis un peu méchant en disant ça, mais sa philosophie, c'est quand même ça. C'est quand même ça, se détacher du monde. Alors, je voudrais dire un mot avant qu'on se sépare, parce que, pour montrer une certaine filiation, ce que je veux dire est évidemment très très sommaire. Mais vous voyez dans cette affaire, le rôle de Kant, et qui ouvre deux lignes de pensée qu'on confond souvent, et je crois qu'il ne faut pas les confondre. On a donc la ligne que reprend Schopenhauer, qui se veut kantien, qui le montre comme volonté, comme représentation, ça veut être du Kant. Mais il insiste, je dirais, il fait basculer le kantisme du côté de la volonté, du côté de la morale, nous retrouvons Nietzsche, mais de la volonté qui finalement est le jouet du vouloir vivre. Bon, en gros, c'est quand même ça. C'est dans cette postérité, tout en la récusant, que Nietzsche va s'inscrire. Mais c'est de la postérité aussi dans laquelle un Freud va s'inscrire. Et Freud revendique explicitement le patronage de Schopenhauer. De Nietzsche qu'il n'aimait pas beaucoup, parce que Nietzsche avait dit des choses tellement proches de lui que c'était un concurrent qu'il n'aimait pas trop. Mais enfin, c'est une ligne qui insiste sur la volonté et qui, vous voyez, est une ligne, mettons beaucoup de guillemets, pessimiste. Sauf que Nietzsche va essayer d'affirmer le oui plutôt que le non. Mais on a une autre ligne, qui est la ligne justement de Hegel, qui va reprendre Kant en faisant sauter les limites qu'il pose à la raison pratique. La grande critique de Hegel, c'est quand même cela, à l'égard de Kant. C'est que la raison est capable d'aller, de comprendre les choses au-delà de ses propres limites, de se critiquer elle-même et de rentrer dans une compréhension systématique du monde. Donc on a ici une insistance plutôt sur la connaissance plus que sur la volonté. On est capable de découvrir peu à peu l'enchaînement des choses les unes par rapport aux autres, jusqu'au savoir absolu. Dans cette ligne, on pourrait marquer Feuerbach. Alors, Feuerbach, on pourrait dire, c'est l'athéisme majeur, c'est-à-dire que cette compréhension, quand l'homme pense Dieu, ce n'est jamais lui-même que lui-même qu'il pense. Donc, tous les attributs qu'on accorde à Dieu sont des attributs accordés à l'homme, à l'humanité. pas l'homme individuel, évidemment, aucun de nous n'est tout puissant, n'est sage et tout ça, mais l'humanité comme espèce est toute puissante, toute connaissance, au moins en devenir. Et puis je dirais qu'on a évidemment Marx, bon, qui connaît Schopenhauer, qui connaît Feuerbach, qui a les fameuses thèses sur Feuerbach. Marx, c'est l'idée que, ben voilà, avec Hegel, nous connaissons ce qu'il en est du monde. La fameuse 11e thèse, les hommes, les philosophes n'ont fait jusque-là qu'interpréter le monde, c'est-à-dire le comprendre. Mais nous avons maintenant la possibilité, grâce à l'industrie, aux sciences, aux techniques, de le réaliser, de le transformer. Donc, il est possible, grâce aux luttes, grâce à la connaissance, grâce au capitalisme, etc., de transformer le monde sur la base de ce que, finalement, nous en connaissons. Donc, à nouveau, on est là dans un domaine rationaliste et, je mets beaucoup de guillemets, optimiste, puisqu'on pense à la fois que l'homme peut comprendre, Hegel, la totalité du monde, vraiment, qu'il peut sortir totalement de ses illusions, en particulier religieuses, chez Feuerbach, et qu'il peut construire un monde dans lequel, pour l'essentiel, l'aliénation sera supprimée. Donc une espèce d'exaltation de l'homme. Alors je crois qu'il est très important, à mon avis, de ne pas confondre les deux lignes, même si mon schéma est évidemment beaucoup trop primaire. Parce que vous voyez bien qu'ici, même quand Nietzsche va affirmer le côté créateur de l'homme, c'est sur la base du pessimisme et du nihilisme. Et ça n'a rien à voir avec la réaction, avec l'idée créatrice de l'homme chez Marx et chez Feuerbach. L'homme capable de transformer les conditions sociales, etc., d'advenir une société nouvelle. L'homme comme prométhéisme, c'est cette ligne-là qui pourrait être accusée. J'aime pas beaucoup ces catégories. Mais enfin, c'est celle qu'on utilise notamment dans les sacristies. Le prométhéisme, et on confond souvent Nietzsche avec ça. Lisez le très beau livre d'ailleurs du père Lubac là-dessus. Nietzsche, c'est le prométhéisme, c'est l'homme qui s'affirme, mais c'est la confusion des deux. Or, derrière Nietzsche, il n'y a pas Hegel, il y a Kant et Schopenhauer. Donc, un certain Kant et surtout Schopenhauer. Donc, je crois que c'est très important d'avoir ça en ligne de mire. L'affirmation nietzschéenne du « oui » se prend sur le « non ». Le monde n'a pas de sens. Là-dessus, Nietzsche est tout à fait d'accord avec son maître, Schopenhauer. Le monde n'a pas de sens. Il ne va pas déboucher sur la société sans classe et sans État. Il ne va pas déboucher sur la transparence du monde à soi-même ou de l'homme à lui-même. Non. Et cependant, l'homme noble est capable de créer du positif dans ce monde. Le créateur, c'est l'artiste. Il est capable de créer, tout en sachant que son œuvre ne subsistera pas, qu'elle sera vouée peut-être à l'ignorance ou à la mort, mais il est capable de faire, de créer. Et pas créer le monde nouveau, pas créer la fin des aliénations, pas créer la fin de la mort, pas créer la fin de la souffrance. Ça, c'est des illusions, des conneries. Ça n'existe pas. Alors, si on confond les deux, finalement, on a des contresens absolument terribles. Parce que je crois que c'est quand même une ligne, peut-on dire, noire, marquée par le nihilisme. Et Nietzsche est hanté par cette idée du nihilisme. Bon, nous aurons à le voir dans les textes, mais Nietzsche voit bien que si cette philosophie de Schopenhauer, qui est finalement une philosophie d'élite, se popularise, ben nous avons vu ça dans la préface, qu'est-ce qui se passe? Parce que les hommes vivent dans l'illusion. Croient qu'ils aiment leur femme, qu'ils aiment leur amante, etc. Si vous leur dites, mais mon pauvre ami, c'est la mort, votre truc. Vous voyez, le travail. Bon, alors, c'est ça la peur de Nietzsche, que si le nihilisme gagne, ce nihilisme-là, ben c'est la mort qui va, c'est le désastre, c'est la panique, c'est les émeutes, c'est la... Donc c'est pas, on rêve pas d'un avenir radieux, hein. Là, on peut rêver d'un avenir radieux, qui n'arrive jamais d'ailleurs. Enfin bon, on peut toujours rêver. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'avenir radieux, il y a plutôt, ben oui, comme dit Schopenhauer, quand même, quelque chose comme la mort.
C'est Wagner.
Oui, comment?
C'est Wagner.
Un peu, oui, sûrement, oui. Oui, Wagner. Avec toute la mythologie que n'aimait pas Nietzsche du tout, oui. Et puis Wagner, avec l'idée qu'on retrouvera chez Malraux, l'art comme substitut, finalement, qui à la fois nous trompe, mais nous permet de vivre, qui est aussi un terme nietzschéen, l'art qui nous aveugle, mais qui en même temps nous... Au moins dans l'art, il n'y a pas de... Si vous ne laissez pas comme dans la sexualité, vous êtes vraiment victime. Dans l'art, vous savez que la cantate de Bach finira. Vous savez ça. Vous en jouissez, mais vous n'êtes pas accroché à ça. Tandis que dans la sexualité, vous y croyez. Et c'est ça qui est terrible, aux yeux de Schopenhauer. C'est une philosophie de la sexualité terrible, hein. Terrible, parce que quand on dit, dans la théologie catholique, on a dit des choses horribles sur la sexualité, ben lisez Schopenhauer, vous allez voir que c'est de la bibine, ce qu'on a dit en théologie, ou même Augustin. Non, donc la musique serait en effet plus... Les arts, je crois pour Schopenhauer, c'est un peu... Pour Wagner, oui, c'est un peu ça, oui. Quelqu'un va poser une question? Ah, oui.
Oui. Je voulais dire, dans la tonalité sombre de la ligne Kant, Schopenhauer, Nietzsche, on ne peut pas repérer aussi une certaine, disons, influence du piétisme, du protestantisme, parce que, disons, il y a certains éléments qui accommodent Kant et Nietzsche dans un certain sens, comme origine du moins. Et Nietzsche, il a quand même étudié théologie à Bonn aussi. Il a pas mal lu Saint-Augustin, disons, oui. Il n'a pas un penchant aussi, disons, j'ai l'impression, disons.
Non, mais tu as raison. Non, alors, évidemment, le protestantisme est tout à fait présent là-dedans. Ça, c'est tout à fait clair, qu'il suffit de lire Schopenhauer. C'est une perspective, cette distance sur le péché, l'homme corrompu, etc. C'est du protestantisme. Alors, tu me permets de dire une chose à propos du piétisme. Je n'ai pas dit, parce que je ne voulais pas être trop long sur Schopenhauer, qu'il va insister beaucoup sur l'idée de pitié et de compassion. Mitleiden. Et c'est aussi une chose que Nietzsche va critiquer durement, et je crois que c'est intéressant, à une époque où on parle beaucoup du care. N'est-ce pas? La seule vertu morale que Chopin reconnaît, c'est la vertu de compassion. C'est-à-dire que nous pouvons découvrir, à travers notre propre souffrance, la souffrance des autres. Et nous pouvons donc compatir à la souffrance des autres. La seule vertu, finalement, qu'on peut reconnaître dans ce monde de la représentation, c'est la vertu de la compassion, c'est-à-dire souffrir avec les autres. Porter avec... Là aussi, ça se veut chrétien. Porter la souffrance des autres avec sa propre souffrance. Donc, il y a une communication possible par la souffrance. Et donc, par la pitié. Par la pitié, par la piété, par la pitié. La Mitleiden, la souffrance. Et cette souffrance, elle nous fait coïncider avec la volonté de vivre qui est partout présente. Et nous retrouverons là certains traits d'insistance actuelle sur les animaux, parce que les animaux eux-mêmes sont manœuvrés par la volonté de vivre. Ils souffrent. Ah, c'est la grande découverte de la philosophie des animaux, c'est qu'ils souffrent comme nous. Et donc, nous pouvons, nous, comme êtres humains, compatir à la souffrance des animaux. Nous pouvons porter avec eux leur souffrance, et nous pouvons aussi l'empêcher, bien entendu, la limiter. Donc ça, c'est aussi une filière très, très intéressante. Et alors, nous verrons, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a des textes de Nietzsche très féroces sur cette idée de pitié qu'on trouverait chez Rousseau. Parce que la grande critique de Nietzsche, qu'on pourrait faire d'ailleurs à certaines théories du care, c'est que c'est très beau de compatir, mais une fois que vous compatissez, vous ajoutez de la souffrance à la souffrance. Vous comprenez? Vous portez le poids du péché du monde, le poids de la souffrance humaine. Qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez une souffrance de plus à la souffrance du monde. Vous ne changez rien du tout. Donc vous faites plaisir à vous-même en compatissant. Vous comprenez quand Rousseau, je crois que c'est dans les Confessions, dit qu'il compatit à la douleur de son chat qui cligne des yeux, etc. Bon, d'abord c'est de la blague parce qu'évidemment il ne peut pas coïncider avec la souffrance du chat. Mais en plus, ça ne fait qu'une souffrance de plus pour ce malheureux Rousseau qui avait déjà pas mal de souffrances à porter. Donc voilà, la critique c'est de dire cette compassion, mais c'est à nouveau une illusion majeure. Vous ne compatissez pas, vous ajoutez de la souffrance à la souffrance. La belle affaire. Oui, ça c'est un point très important. Donc il y a l'idée du piétisme, la piété et de la pitié. Donc nous pouvons, c'est pas un individu, on peut compatir à la souffrance des autres dans la mesure où nous-mêmes nous sortons du voile de l'illusion. Mais à nouveau, c'est une compassion qui ne rime à rien, hein, pour Schopenhauer. Ça n'a pas de sens. Et ça ne débouche pas non plus, évidemment, sur une action. À quoi bon? Là, on retrouvait quand même certains aspects du bouddhisme. À quoi bon? À quoi bon faire reculer la souffrance du monde ou la misère du monde? De toute façon, les gens vont mourir, ils vont souffrir, ils vont... À quoi bon? Voilà, sur ces bonnes paroles, cette bonne nouvelle, nous une petite pause. Alors nous revenons plus prosaïquement au texte du paragraphe 18. Donc j'avais pris prétexte de cette allusion à Schopenhauer pour nous ouvrir à ces perspectives, je crois, assez impressionnantes et qui ont marqué très profondément le jeune Nietzsche. Alors là, je dirais, après cette ouverture, Nietzsche va insister sur l'idée de la complexité de la volonté. Je lis le passage. Avant tout, il me semble que la volonté est quelque chose de complexe, qui n'a une unité que par un mot. Toujours cette idée du langage trompeur. Et c'est effectivement dans l'unicité du mot que se dissimule le préjugé populaire qui a trompé la vigilance toujours médiocre des philosophes. Soyons donc vigilants et moins philosophes, entre guillemets. Disons que tout acte de volonté comporte. Alors, il va y avoir trois éléments. Premièrement, une pluralité de sentiments, le sentiment de l'état initial, le sentiment de l'état terminal, le sentiment du mouvement lui-même qui conduit de l'un à l'autre, en outre un sentiment musculaire concomitant qui, par une sorte d'habitude, entre en jeu sitôt que nous voulons, même si nous ne remuons pas les bras et les jambes. Il faut donc tenir un sentiment, ou mieux un agrégat de sentiments, pour une composante de la volonté. Bon, je crois que c'est pas la peine de spéculer longtemps, on voit assez clairement que la volonté est une réalité complexe. Elle est faite de Gefühl, de sentiments, et donc elle a une continuité temporelle. En même temps, la volonté n'est pas seulement un phénomène psychique, c'est aussi un phénomène physique. Elle touche le corps. Quand nous voulons, même si nous ne faisons pas de gestes, le corps est impliqué. Hein ? Bouger les bras et les jambes, même si je ne les bouge pas, il y a, pense-t-il, une impulsion musculaire qui se joue. Bon, c'est un point qui mérite d'être relevé, parce qu'effectivement, il y a toujours la mise en cause du corps dans toute volonté. Donc, il faut tenir un sentiment, au mieux un agrégat de sentiments pour une composante de la volonté. Alors, ce qu'on peut supposer ici, c'est que cette relation entre cette série de sentiments et le corps va comporter des risques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une disjonction entre cette série de sentiments et le mouvement musculaire. Soit qu'il n'y ait pas de coordination, soit que l'un de ces niveaux agisse sans l'autre, c'est-à-dire que le corps ne réponde pas à ce que la volonté attend, ou la volonté est incapable de maîtriser le corps. Bon, ceci est simplement une annonce de ce que Nietzsche va dire concernant la complexité de la volonté. Donc la volonté n'est pas simplement une faculté, pourrait-on dire, séparée du corps, psychique. Ça, c'est le premier aspect, la complexité. Mais secondement, la pensée y entre aussi, car tout acte de volonté recèle une pensée qui le commande. Et n'allons pas croire que nous puissions retrancher cette pensée du vouloir. Alors, ça, c'est un point, évidemment, capital. La pensée n'est pas simplement un accompagnement, un surplus. Elle n'est pas non plus dans la dépendance de ces mouvements de la volonté. Elle a un rôle de commandement. Et comme il va le dire tout à l'heure, elle est affect des commandos. Elle a un rôle de commandement. Donc la pensée n'est pas dépendante de la volonté. Je crois que c'est important, contre toutes les tentations, de penser la position nietzschéenne comme une sorte de déterminisme du corps ou de la physiologie sur le psychisme. C'est la pensée qui est intérieure à la volonté et qui même la commande. Donc on pourrait dire que la pensée est un affect comme le reste, mais c'est un affect de commandement. Et là encore, on peut soupçonner que la pensée peut être piégée par la volonté, ou la volonté piégée par la volonté. Car l'affect des commandos ne fonctionne pas automatiquement. Encore faut-il que la pensée soit capable d'ordonner la diversité des affects. Il s'agit donc d'un travail difficile, qui ne va jamais de soi, et soit que la pensée soit trop faible, soit inexistante, soit qu'elle se trompe, soit que les affects soient si forts que la pensée ne peut pas les dominer. Donc, on pourrait ouvrir la voie ici à une analyse psychologique des actes qu'on fait sans les vouloir et sans les penser, les automatismes ou les névroses, qui fait que quelqu'un ne peut pas dépasser tel numéro d'une rue ou fait des gestes inconsciés, ne peut pas manger tel produit, etc. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des pulsions qui ne peuvent pas être commandées. Donc, il faut même aller jusqu'à dire que sans la pensée, c'est ce que Nietzsche dit clairement, la volonté s'évanouirait. La volonté s'évanouirait. Donc, voilà un texte qui nous indique bien que si la pensée nietzschéenne est une pensée de la volonté, ce n'est pas une volonté dépourvue de référence à la pensée, puisque sans pensée, la volonté s'évanouit. Troisièmement, la volonté n'est pas seulement un amalgame de sentiments et de pensées, mais avant tout encore un affect. Alors ce mot est très difficile à traduire. On dit d'ailleurs souvent en français un affect, c'est un sentiment, c'est une pulsion. On peut garder le mot d'affect, comme quand on ne sait pas comment traduire, on garde le mot anglais, ça fait bien, là on peut garder le mot. Un affect, cet affect de commander dont il a déjà été question. Ce qu'on nomme liberté de volonté, on traduit ici par libre arbitre, mais c'est Freiheit des Willens, liberté de la volonté. Il faut éviter les contresens ou les pièges qui sont déjà nombreux dans ces problèmes. Ce qu'on appelle liberté de volonté est essentiellement notre sentiment de supériorité à l'endroit de celui qui doit obéir. Je suis libre, il doit obéir, prenons garde aux guillemets et aux crochets. Cette conscience réside au fond de toute volonté, de même que cette tension de la volonté, ce regard direct qui ne fixe qu'une seule chose, ce jugement radical que ceci importe à présent et rien d'autre, cette intime certitude que l'on sera obéi et tout ce qui appartient encore à l'état de celui qui commande. La traduction, je crois, est mauvaise. Ce n'est pas la psychologie du commandement, mais appartient à l'état de celui qui commande. Alors, c'est un texte, je crois, tout à fait essentiel. La volonté n'est pas simplement cet amalgame de sentiments, un commencement, un intermédiaire, une suite. C'est pas seulement une pensée qui viendrait s'ajouter. C'est un affect du commandement. Et si l'on commande, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être obéi. La volonté, donc, n'est pas simple, à la fois pour les raisons que nous avons vues dans la première partie, dans le premier élément. Elle n'est pas simple parce qu'elle est faite de ce rapport toujours difficile entre ce qui commande et ce qui est commandé. Et donc, nous trouvons là déjà la relation que Nietzsche va reprendre plus tard entre ce qui commande, à savoir le noble, la noblesse, le commando, et ce qui est obéi, le serviteur, l'esclave, ce qui est soumis à la volonté. Alors, je crois qu'il faut bien noter que la volonté est divisée dans chaque individu, entre ce qui commande et ce qui obéit. Donc, la relation maîtrise-esclavage est interne à toute volonté. Il faut retenir ce point parce que quand nous regarderons ce qu'il dit concernant la morale des esclaves et la morale noble, nous aurons la tentation de croire qu'il y a d'un côté des gens qui sont forcément des nobles et qui ne sont que nobles, et de l'autre côté des esclaves qui ne sont que des esclaves. Or, en réalité, la subtilité de l'analyse nietzschéenne, et je crois sa profondeur, c'est de dire que chacun est à la fois plus ou moins esclave et plus ou moins maître. Ça veut dire que la volonté commande plus ou moins aux affects. Et voilà la porte ouverte à des analyses, je crois, extrêmement profondes, qui vont être celles de Freud. C'est qu'il y a tout un jeu très difficile, comment arriver à dominer les pulsions. Il y a des pulsions qu'on ne peut pas dominer. Il y a des pulsions qui, au contraire, dominent la pensée, qui deviennent obsessionnelles. Donc la pensée, évidemment, elle commande, mais elle ne commande pas comme un dictateur qui, de toute façon, a raison sur les pulsions. Il y a un jeu complexe. Ça, je crois que c'est assez essentiel de le comprendre. Donc cet affect cet affect du commandement, il doit maîtriser, pour autant qu'il le peut, non pas éteindre les passions, mais tenter de les ordonner en fonction du but qu'il se donne. Il commande en vue d'eux. Mais il y a des moments où la volonté est dans le désarroi et ne parvient pas à dominer les passions, de dominer les affects, disons, ne parvient pas à les dominer. Donc je dirais que c'est la seconde partie. La volonté est complexe, non seulement parce qu'elle est une série d'affects, non seulement parce qu'elle implique la pensée, mais encore parce que la pensée ne parvient pas toujours à commander les affects. Alors, voyons tout de suite que Nietzsche ne dit pas la pensée doit éliminer les tensions et les affects. Il ne s'agit pas d'un ascéticisme qui éliminerait les passions. Il s'agit de les prendre en compte pour les ordonner à un but que la volonté se donne. Alors, on voit bien les problèmes où la volonté n'a pas de but à se donner, c'est le nihilisme, elle se laisse envahir par les passions, ou bien les affects n'obéissent pas à la volonté qui commande. Et on a tous les problèmes psychologiques et moraux que Nietzsche va analyser. Un homme qui veut commande en lui-même à quelque chose qui obéit ou dont il se croit obéi. Très très important. Nietzsche ne parle pas de dialectique, évidemment, de maître esclave, ça c'est du Hegel, mais je crois que ce qu'il souligne ici, c'est que cette lutte entre le commandement et ce qui est commandé est interne à chaque homme. Et je crois que si on prend ceci au sérieux, ça évite des contresens pour dire « Ah oui, Nietzsche exalte les forts, etc. » Puis d'autre côté, les pauvres types. Mais nous sommes tous des pauvres types, plus ou moins. À certains moments, etc., la volonté déraille. En plus, on voit tout de suite ici que la volonté n'est pas faite une fois pour toutes. Elle a toujours à se battre, en plus. Elle a toujours à dominer des affects qui arrivent par les sensations, par etc. Donc la volonté n'est jamais forgée une fois pour toutes, en plus. On voit très bien. Elle est un combat, elle est une lutte permanente et elle peut faillir. Elle peut se laisser dominer par les passions. Donc il ne s'agit pas d'une espèce de stoïcisme, je dirais presque un peu cornélien, je suis maître de moi-même comme du monde. Ça, je crois que ce n'est pas du tout nietzschéen parce qu'on n'est jamais maître de ses affects qui peuvent survenir et par rapport auxquels on peut rester trop court. On est capable de les dominer. Donc on est à ce moment-là dans la perspective d'un esclavage à l'égard de soi-même. On est victime, on est dominé par ses propres pulsions. Et ceci ne peut jamais être totalement exclu. Donc il ne s'agit pas d'un stoïcisme, on est maître du monde comme de soi-même, on n'est jamais totalement maître de soi. Et donc non plus maître du monde, on retrouve le petit schéma que je disais tout à l'heure. Alors je crois qu'on a une quatrième et dernière partie, mais considérons maintenant l'aspect le plus singulier de la volonté, de cette chose si complexe pour laquelle le peuple n'a qu'un mot. Si dans le cas envisagé, nous sommes à la fois celui qui commande et celui qui obéit, si nous connaissons en tant que sujet obéissant la contrainte, l'oppression, la résistance, le trouble, sentiment qui accompagne immédiatement l'acte de volonté, si d'autre part nous avons l'habitude de nous duper nous-mêmes en escamotant cette dualité grâce au concept synthétique du moi, on voit que toute cette chaîne de conclusions erronées. Bon, la chaîne de conclusions erronées, c'est d'une part de croire qu'on est maître de soi comme de l'univers, alors qu'on a toujours à dominer ses affects. La seconde illusion, c'est de croire à l'unité d'un moi qui serait maître de lui-même, comme de l'univers. En réalité, le moi, il est cette bagarre incessante entre les affects et l'affect des commandos. Alors, si on voit, si on rentre dans ces préjugés, dans ces illusions, toute une chaîne de conclusions erronées et donc d'appréciation de valeurs fausses, je corrige la traduction, sur la volonté elle-même viennent s'agréger au vouloir. Ainsi, celui qui veut, croit-il de bonne foi qu'il suffit de vouloir pour agir ? Je vais revenir un peu sur ce point. Il suffit de vouloir pour agir. Comme dans la très grande majorité des cas, et là je corrige complètement la traduction qui me paraît fautive, et la phrase allemande n'est pas non plus très claire, il n'est voulu que là où aussi l'effet du commandement, donc de l'obéissance, donc ici où l'action doit être attendue, on a transposé l'apparence dans le sentiment, comme s'il y avait là une nécessité de l'effet. Bref, celui qui veut croit avec un certain degré de certitude que la volonté de l'acte, que la volonté et l'acte ne sont qu'un en quelque manière. Il attribue à la volonté elle-même la réussite et l'accomplissement du vouloir et jouit du même coup du sentiment accru de puissance que tout succès apporte avec soi. Bon, que veut dire ce texte un peu embrouillé ? J'hésite. Je crois qu'il y a l'idée qu'effectivement, non seulement la volonté est une réalité complexe, et donc il y a une distance interne à la volonté et insurmontable entre ce qui obéit et ce qui commande, mais que les actes ne découlent pas nécessairement de ce qu'on a voulu. Par certains côtés, les actes nous échappent. Et ça, je crois que c'est aussi très intéressant, c'est que quelquefois, on fait ce qu'on n'a pas voulu. On croit, c'est pas seulement l'idée des effets collatéraux, c'est l'idée que la volonté elle-même se trompe sur elle-même. Elle croit vouloir un acte et en réalité, elle en pose un autre. On pourrait dire que c'est les actes manqués, si on veut, ce qu'on appellera ensuite des actes manqués. L'acte lui-même ne découle pas de manière nécessaire de la volonté elle-même. La volonté peut se trahir elle-même dans l'acte qu'elle pose. Je crois que c'est ça qui est dit, n'est-ce pas ? C'est que, voilà, et ça nous échappe aussi. C'est-à-dire, je crois, ça rejoint au fond l'idée des actes manqués. Donc, non seulement le moi n'est pas une réalité simple, mais, et donc, il travaille lui-même de contradictions, mais en même temps, il y a une contradiction entre la volonté et ce qu'elle fait. Donc, il ne suffit pas de vouloir pour agir. Ça veut dire que la volonté ne parvient jamais à se dominer totalement elle-même. Que par certains côtés, l'homme échappe à lui-même. Donc, je crois qu'en disant ça, Nietzsche s'inscrit dans une grande tradition augustinienne et paulinienne. Si vous repensez au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, « Je veux faire le bien et c'est le mal que je fais. » C'est-à-dire, j'ai voulu le bien. En fait, c'est le mal que je fais. Mystère de la volonté. Mais quand je fais le mal, il arrive quelquefois que ce soit du bien. Et c'est évidemment cette perspective qu'un Augustin, dans ses Confessions en particulier, va évidemment amplifier. Et de ce point de vue-là, Nietzsche, à travers Luther, est augustinien. C'est-à-dire que la volonté est une réalité complexe. Elle suppose non seulement une lutte interne, qui n'est jamais achevée, mais elle suppose aussi que la volonté n'obtient pas les résultats qu'elle souhaite toujours. Les actes nous échappent. Alors, ici, on retrouverait à nouveau peut-être, comme nous avons eu l'autre jour, nous retrouverons peut-être Kant, qui nous dit, lorsque nous observons un acte posé par quelqu'un, nous ne pouvons jamais dire, et l'intéressé lui-même ne peut jamais dire, que cet acte est purement moral. Il est toujours mêlé de convoitise, de soucis de soi, de recherche du succès, il est toujours équivoque dans son empiricité même. Donc, d'aucun acte de vertu, même le plus grand, vous ne pouvez dire qu'il n'est purement de vertu. Il est toujours mêlé. Et je crois que c'est une analyse assez fine. Le plus grand acte de courage, le soldat en 14-18 qui est criblé de balles et qui va au-devant comme Peggy de l'ennemi, c'est magnifique, avec elle. Oui, on peut dire aussi, si on a une mauvaise humeur, c'est le nationalisme qui l'a conduit là. C'est-à-dire qu'il était esclave d'une idée complètement idiote. Vous comprenez ? Oui, j'exagère en disant ça. Mais est-ce que cet acte si vertueux et si beau, nions pas qu'il est beau, n'était pas mu par des affects qui, eux, étaient équivoques ? Donc, est-ce que, voilà le coup de marteau de la crise, est-ce que tout acte de volonté n'est pas à la fois généreux, beau, bon et plein d'illusions, d'égoïsme, de méchanceté. C'est quand même une grande tradition morale de dire, mais attention, nous ne sommes pas dans le pur idéal du bien. Quand je veux faire du bien, c'est aussi du mal que je fais. Je n'ai pas voulu le mal, mais... Bon, je crois que Nietzsche s'inscrit quand même dans cette grande tradition qui veut par conséquent... qui nous avertit que quand nous entendrons le concept de volonté de puissance, il ne faudra pas entendre une volonté qui est totalement en état de se dominer elle-même et de dominer ses actes, qui nous échappent d'une certaine façon toujours. Donc on a aussi cette idée que, bien sûr, la référence à un idéal moral, disons pour Peggy, disons, le patriotisme, la fidélité à la patrie, est quelque chose d'essentiel. Et je ne crois pas que Nietzsche renie ça. Nous avons besoin de nous donner des buts. Mais ne nous illusionnons pas, nous ne sommes jamais à hauteur des buts, c'est-à-dire l'acte concret, il est toujours mêlé. Donc je peux dire, certainement, Peggy était un homme très très courageux, un grand patriote, en même temps il était victime du nationalisme ambiant. Hein, il est monté au combat glorieusement, mais il s'est fait trouver la peau, et finalement pourquoi ? On trouvait un peu Schopenhauer, finalement pourquoi le pauvre homme ? Ça servit à quoi tout ce carnage ? À la fois magnifique, soyons un peu schopenhauériens. Totalement vain, parce que l'Europe s'en est pas relevée. Et ça enlève peut-être toujours pas. Bon, j'exagère un peu, mais je crois qu'il y a quand même de ça. Alors, ça c'est un premier aspect, que nos actes débordent la volonté. Mais ensuite, il y a un passage très intéressant. Libre arbitre, plutôt liberté du vouloir. Tel est le mot qui désigne ce complexe état d'euphorie du sujet voulant, qui commande et s'identifie à la fois avec l'exécuteur de l'action, qui goûte au plaisir de triompher des résistances, tout en estimant que c'est sa volonté qui les surmonte. À son plaisir d'individu qui ordonne, le sujet voulant ajoute ainsi les sentiments de plaisir issus des instruments d'exécution, que sont les diligentes sous-volonté ou sous-âme. À nouveau, Nietzsche ne craint pas ce mot, sous-âme, sous-volonté, car notre corps n'est pas autre chose qu'un édifice d'âmes multiples. L'effet, c'est moi, en français. Ce qui se produit ici ne diffère pas de ce qui se passe dans toute collectivité heureuse et bien organisée. La classe dirigeante s'identifie au succès de la collectivité. Dans tout acte volontaire, on a toujours affaire à un ordre donné et reçu, ordre qui s'adresse, nous venons de le dire, à un édifice collectif d'âmes multiples. C'est pourquoi un philosophe devrait s'arroger le droit de considérer le vouloir sous l'angle de la morale conçue comme doctrine, et non pas science, l'ère, doctrine des rapports de domination dont procède le phénomène de vie. Bon, qu'est-ce qui nous dit là ? Bien, je crois quelque chose d'assez simple, c'est que finalement la volonté est comparable à un corps, à une grande architecture, et qui doit mettre en place un ensemble d'éléments. Et que il y a une jouissance à vouloir. Il y a une jouissance à vouloir. Ça, c'est évidemment tout à fait capital. La volonté n'est pas si indifférente, si neutre, qu'elle n'entraîne pas le plaisir de dominer. Il y a un plaisir de dominer. De se dominer. Attention, ce n'est pas la domination des autres, il y a un plaisir de se dominer. Donc le plaisir d'être capable de maîtriser ses affects, et d'aboutir à une certaine action. Et la comparaison politique est intéressante, il en va de la volonté comme d'un corps qui est lui-même fait d'une multiplicité, d'une collectivité d'individus. Alors, on pourrait prolonger ici l'allusion politique, à savoir que la domination dans une société est une domination d'une pluralité, et donc pas la domination tyrannique d'un seul. La volonté étant justement cet amalgame, au bon sens du mot, de diverses volontés, il en est de même du corps politique, il est un amalgame d'une diversité d'éléments. Simplement, ce qui nous est dit ici un peu méchamment, qui va être repris dans le paragraphe suivant, c'est que la classe dirigeante, c'est-à-dire celui qui commande, s'identifie au succès de la collectivité. C'est-à-dire le patron prend pour lui les succès de l'entreprise. Mais qu'est-ce qui a réussi dans l'entreprise? Ce sont les travailleurs. Si l'entreprise réussit à vendre ses produits, donc le patron est très fier, il va de par le monde en disant « Regardez comme mon entreprise marche bien », mais en réalité, c'est les ouvriers, c'est-à-dire les éléments, les affects, si vous voulez, qui sont responsables de la chose. Donc le commandement a toujours tendance à accaparer pour lui-même la force qui est présente dans les éléments. C'est un petit point qui, je crois... vaut la peine d'être souligné. Nous retrouvons ici l'idée de corps comme un édifice complexe. Donc, pour Nietzsche, le corps, ce n'est pas simplement la physiologie, comme on lui fait dire simplement, souvent. Le corps, c'est cette nécessité où nous sommes d'ordonner une multiplicité de réalités, sans être sûr d'y parvenir jamais. Alors, ça, c'est l'homme souffrant qui parle ici. Le corps est toujours en possibilité de se dissoudre, comme la volonté est aussi en capacité de se dissoudre, de se laisser aller. Bon, l'idée de corps comme édifice de multiples âmes, je crois que c'est quand même assez... Donc, c'est une unité construite et qui doit sans cesse être construite, mais c'est une pluralité vivante. Alors, si vous vouliez prolonger cette réflexion sur le corps, je vous renvoie à Ainsi parlait Zarathoustra. Dans la première partie, il y a un très beau chapitre qui s'intitule « Des contempteurs du corps », hein, de ceux qui méprisent le corps et qui n'ont pas justement cette vue de la multiplicité, de la pluralité interne au corps et qu'ils réduisent à un instrument qu'il faut dominer absolument. Je cite ce petit passage qui est assez beau. « Le corps, dit ce texte du Zarathoustra, est une grande raison. » Le corps comme grande raison. Donc, ce n'est pas simplement des neurones, des viscères, etc. « Le corps, une grande raison. Une multiplicité a un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. » Voilà, le corps est lui-même une réalité politique qu'il faut commander. L'instrument de ton corps, c'est aussi ta petite raison, mon frère, celle que tu appelles esprit, Geist, un petit outil et un petit jouet de ta grande raison. Donc le corps est l'englobant à l'intérieur duquel la raison essaie de faire son travail, et on voit bien que dans ce texte, elle n'y réussit pas, qu'elle n'y réussit pas toujours. Bon, je crois que ce texte nous permet de dire un petit mot de ce que Nietzsche appelle, dans la généalogie de la morale, le ressentiment, qui est en effet une notion clé, qui a été reprise par Max Scheler et développée, et qui est une notion, je crois, extrêmement intéressante. Alors, il n'en est pas question ici, mais j'ouvre une petite parenthèse pour le signaler. Que veut dire le ressentiment? Et pourquoi cette analyse nous ouvre à une analyse du ressentiment? Il y a ressentiment aux yeux de Nietzsche lorsque l'individu, au lieu d'agir, au lieu de commander les affects, il est commandé par un affect. C'est le sentiment qui domine, c'est un affect qui domine. Ça veut dire que l'individu, au lieu d'être chef, au lieu de commander, est commandé par un sentiment qu'il ne peut pas maîtriser. Bon, les phobies... Les mots qui vous reviennent ou les images dont vous n'arrivez pas à vous défaire, l'idée aussi que des gens m'en veulent, cette idée que je suis persécuté, qu'il y a des gens qui s'amusent à détruire ma réputation, qui disent des choses méchantes de moi. Bon, c'est un... Le ressentiment, c'est le retour incessant d'un affect qu'on n'arrive pas à dominer. Donc, dans ce cas-ci, on ne parvient pas à maîtriser cette multiplicité, cette diversité. Et puis, deuxièmement, il y a ressentiment à partir du moment où l'on va faire une projection en effigie, ce que la génie de la morale appelle une projection en effigie. C'est-à-dire que comme je suis incapable de maîtriser, par exemple, cet affect de persécution, je vais m'imaginer qu'il y a des réalités dans le monde, il y a une personne, il y a une classe sociale, il y a des gens qui sont responsables et coupables du mal que je ressens. C'est pas moi qui ressens ce mal, c'est des gens qui m'en veulent, ou c'est une classe sociale qui m'en veut, ou c'est des ennemis évidemment cachés qui m'en veulent. Le ressentiment, donc, a un aspect, je crois, très amusant chez Nietzsche, c'est-à-dire d'analyser aussi ce phénomène collectif, on pourrait dire, si vous voulez, en d'autres termes, qui ne sont pas les siens, du bouc émissaire. Je ne suis pas responsable de ma misère, je ne suis pas responsable de ma maladie, mais un autre l'est. Le grand capital qui manipule toutes les ficelles, n'est-ce pas ? Ça relèverait pour Nietzsche du ressentiment. Parce que qu'est-ce que c'est que le grand capital ? Ou bien les États-Unis, ou bien le bourgeois, le capitaliste qui tire les ficelles, qui essaie de nous aveugler par toute espèce de trappe. Bon, le ressentiment, justement, c'est ce qui va créer en effigie un responsable que l'on va pouvoir fixer. Et évidemment, moi, je suis innocent. L'homme du ressentiment se sait innocent, mais malheureusement écrasé. Par toute espèce d'ennemis en effigie, d'ennemis imaginaires. Ces ennemis imaginaires, ils ont surtout l'intérêt de pouvoir être invincibles, pour l'homme du ressentiment, n'est-ce pas ? De pouvoir être invincibles, puisqu'ils n'existent pas réellement. Donc on va pouvoir changer, c'est-à-dire le bouc émissaire va pouvoir se transposer d'un individu à l'autre. Si c'est pas mon voisin qui est responsable, ben je dirais c'est le propriétaire de l'immeuble, ou c'est le syndicat, ou c'est le grand capital. Ou... Vous voyez, donc on peut jouer, le ressentiment, l'imaginaire va jouer sur toute espèce de bouc émissaire substituable les uns aux autres. De telle sorte que le ressentiment est un cercle dont on ne sort pas. L'homme du ressentiment reste enfermé dans le ressentiment. Je crois que c'est une analyse qui en effet, je crois, n'est pas très loin de ce que nous voyons ici, mais que je voulais rajouter. Alors, on peut regarder rapidement le paragraphe 21 que j'avais mis au programme, parce qu'il nous apporte aussi un certain nombre d'éléments, et d'éléments complémentaires. Bon, je passe sur le 20 que vous pouvez regarder. Alors, l'aphorisme 21. Je ne... Je ne vois pas beaucoup d'éléments de distinction à l'intérieur même de ce paragraphe. Je vais lire quand même il me paraît d'un seul bloc, autrement dit. La causa sui, la cause de soi, constitue la plus éclatante contradiction de soi, je corrige à nouveau la traduction, que l'on ait jamais forgée jusqu'à ce jour. C'est une sorte d'atteinte à la logique de monstre. Mais l'extravagante vanité de l'homme n'a pas manqué de s'embrouiller follement dans les filets de ce non-sens. Aspirer, c'est pas le libre arbitre, c'est toujours la liberté du vouloir. Freiheit des Willens. Dans cette acception métaphysique et superlative qui continue malheureusement à faire des ravages dans les cervelles des gens à moitié instruits, aspirer pour ses actes à une responsabilité entière et ultime, l'homme entièrement responsable de tout, et en décharger Dieu, vous voyez, décharger le ressentiment, en décharger Dieu, le monde, les ascendants, le hasard et la société, c'est là d'ambitionner rien moins que d'être causa sui, et avec une légèreté qui passe encore celle de Münchhausen. Bon, c'est une histoire qu'on trouve chez Schopenhauer, de celui qui croit s'échapper de la noyade en se tirant par les cheveux. Donc, l'illusion de Münchhausen, s'empoigner soi-même aux cheveux, dans l'espoir de se tirer d'un néant marécageux pour se hisser jusqu'à l'existence. À supposer qu'il se présente quelqu'un qui ait percé à jour la rustique simplicité de ce fameux concept de Freiwille et qu'il ait rayé de sa tête, je le prierai encore de faire un pas de plus sur la voie de son Aufklärung, son illumination, et de rayer également de sa tête le contraire de cette absurdité. J'entends par là le unfreien Willen, la volonté non libre, le self-arbitre. Alors ça, c'est un texte tout à fait essentiel, parce que ce qui est dans le collimateur, c'est évidemment, vous le devinez, Luther. Donc, le texte, je fais vite, nous y reviendrons la prochaine fois, oscille entre ces deux conceptions antinomiques et qui s'appellent l'une l'autre, soit celle d'une liberté tellement totale qu'elle se possède elle-même, on est responsable de tout, de soi-même comme du monde, et la position antinomique selon laquelle on est responsable de rien parce qu'il n'y a pas de liberté de la volonté. On est responsable de tout. Aux yeux de Nietzsche, c'est évidemment une illusion, mais je voudrais vous signaler que cette thèse, elle a été quand même défendue brillamment, à la fois par Jean-Paul Sartre et par Emmanuel Lévinas. Je suis l'otage du monde, parce que je suis responsable de tout. Alors, c'est une très belle idée, mais on voit très bien, si on se tient dans une perspective Schopenhauer-Nietzschéenne, qu'elle est une illusion majeure, d'abord parce qu'on n'est jamais responsable de tout, et ensuite parce que c'est une perspective accablante pour la volonté. Si je suis responsable de tout, ben je suis responsable de rien. Ben, le tsunami, c'est quand même pas moi, etc. La guerre en Irak, c'est quand même pas moi. Donc dire, alors que on puisse dire, nous avons lointainement des responsabilités, ah, c'est autre chose. Mais dire, nous sommes responsables de tout, alors je crois qu'ici, c'est la causa sui. Responsable de soi-même comme du monde, c'est l'illusion majeure. Mais, et c'est ça qui est intéressant, Nietzsche met en garde, non moins en garde, contre l'autre illusion majeure, celle qui consiste à croire simplement que la liberté est purement et simplement esclave. Autrement dit, qu'il n'y a pas de liberté. Il importe, je continue à le lire, de ne pas chosifier indûment la cause et les faits, comme le font les naturalistes et tous les tenants de l'actuel naturalisme philosophique, qui actionnent et sollicitent la cause selon la balourdise mécaniste régnante jusqu'à ce qu'elle produise en effet. On ne doit user de la cause et de l'effet que comme de purs concepts, c'est-à-dire de fictions conventionnelles désignées à destiner et à rendre compte des phénomènes, mais non pas à les expliquer. L'en-soi est étranger à toute relation causale, à la nécessité, à la non-liberté psychologique. L'effet n'y suit pas la cause, aucune loi ne le régit. C'est nous qui avons forgé les causes. La discursivité, la réciprocité, la relativité, la nécessité, le nombre, la loi, le fondement, la fin. Et lorsque nous incorporons ce monde de signes dans la chose comme en soi, nous retombons dans l'erreur où nous sommes toujours tombés dans la mythologie. Le self-arbitre est un mythe. Dans la vie réelle, on ne rencontre que des volontés fortes et des volontés faibles. Alors, je reviendrai là-dessus la prochaine fois, mais je crois qu'il faut bien voir ici que Nietzsche s'en prend à la thèse luthérienne, peut-être augustinienne, de la corruption intrinsèque de la volonté, dans les termes de Luther, de la nature corrompue de l'homme, de sa non-liberté, évidemment pour Luther, sans la grâce. Nietzsche s'en prend à cette idée parce qu'il n'y a pas de volonté ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui ne soit que esclave, pas plus qu'il n'y a des volontés qui ne soient que nobles. Lorsqu'un penseur, pressant d'emblée dans tout lien causal, je reviens sur ce point la prochaine fois, et dans toute nécessité psychologique, quelque chose qui ressemble à une contrainte, à une nécessité, à une conséquence obligée, à une pression, on peut presque toujours y voir un symptôme de déficience chez lui, qui sent de la sorte se trahit, sa personne se trahit. Et d'ailleurs, si mes observations sont exactes, c'est sous deux aspects contradictoires, mais toujours profondément personnels, que l'on envisage le problème du self-arbitre. Les uns veulent à tout prix se départir de leurs responsabilités, donc je suis responsable de rien, c'est Dieu qui est la cause des maux, c'est le capitalisme, c'est tout ce que vous voudrez. De l'autre, à l'inverse, ne veulent être responsables de rien, coupables de rien. Et dans l'intime mépris qu'ils ont d'eux-mêmes, entendent se décharger sur n'importe quoi, voilà l'effigie, d'un fardeau qui les accablerait. Quand ils écrivent des livres, ces derniers ont coutume aujourd'hui de prendre la défense des criminels. Leur travesti le plus plaisant est une sorte d'apitoiement socialiste, la pitié. Et il est certain que le fatalisme du faible, en volonté, gagne fort en beauté lorsqu'il sait se présenter comme la religion de la souffrance humaine. C'est là son, entre guillemets, bon goût. Vous voyez, le misérabilisme, je ne suis responsable de rien, mais je compatis à la misère du monde. Je suis peut-être riche, etc., mais je suis avec les pauvres. Et je suis heureux, finalement, d'être avec les pauvres. Voilà, c'est la religion de la souffrance humaine. On ne peut pas dire que cette religion soit totalement morte. Voilà, alors là, nous retrouvons simplement la semaine prochaine, il n'y a pas de séance, nous retrouvons le 6. Et nous verrons, alors vous pouvez toujours continuer à regarder le 21, le 36 et le 59, puis après le 46.